Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir dans ce cadre de l'Institut Dumitru Stăniloe, donc pour une conférence qui est prévue ce soir sur le thème de la métanoïa, ou bien l'esprit de conversion. Alors, ce thème de la métanoïa, il a été choisi par le recteur qui est le père Jean Bobok, mais je me suis souscrit avec beaucoup de joie, parce que je trouve que ce thème de la métanoïa, il est très actuel, et il déborde même les sphères religieuses, dans le sens où on parle de métanoïa, même dans les univers de l'économie, de l'écologie, et de toute la réalité actuelle, par rapport au fait que nous savons que les modèles que nous appliquons aujourd'hui ne peuvent plus être pérenne pour l'avenir et qu'il nous faut changer de paradigme, changer de regard, changer de perspective, car nous ne pouvons pas poursuivre une économie libérale comme elle s'est faite jusqu'à aujourd'hui. Et ce changement d'esprit, changement de regard, dit bien ce qu'est la métanoïa. En fait, ce terme grec, il a sa sensibilité propre. Et certainement, les traductions françaises, repentir et pénitence, sont correctes, mais en même temps, elles sont connotées d'une manière qui ne correspond pas à l'esprit de la métanoïa. C'est pourquoi il faut garder, je crois, ce mot qui a une signification très précise et que je vais essayer de développer pendant cette heure-là. Voilà. Et donc, je voudrais différencier ici les mots de métanoïa, de pénitence et de repentir par le fait que la pénitence et le repentir, comme la métanoïa, s'appuient sur des prises de conscience. Nous faisons acte de pénitence par rapport à des paroles ou à des actes ou à des attitudes qui ont blessé la relation avec l'autre. Or, en fait, ces prises de conscience peuvent nous amener soit à un changement de comportement, et nous sommes à l'esprit de la métanoïa, soit dans un registre de se reprocher d'avoir commis ses actes ou d'avoir dit ses paroles et dans un état de culpabilité. Donc vous voyez ici, si on est dans une perspective de changement, on est dans un rapport à l'avenir. Par contre, si on est dans les reproches et dans le fait de toujours être accablé par ce que l'on a fait, on est dans un climat de culpabilité et finalement on reste tourné vers le passé. Ainsi, il y a une orientation qui est très différente et certainement la pénitence a ce versant de changement intérieur et de mutation, mais la connotation qu'elle a pris ici en Occident est plutôt une connotation de culpabilité, de remords, et en fait d'être en une tension par rapport à soi-même, parce que on a fait quelque chose de mal, on se le reproche, et en même temps, on ne peut rien changer au passé. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire? Or, comme dit le texte biblique, Ézéchiel 18-23, « Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive. » Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas ce que l'on a fait, mais comment on va engager un avenir qui ne sera pas la réitération du passé. Donc, ce qui est important, c'est le changement. Ce qui est important, c'est comment on peut s'appuyer sur les erreurs, les déviations même du passé, pour aujourd'hui ajuster son comportement, ses paroles, et ne pas reproduire les vieux schémas du passé. Donc voilà l'esprit de la métanoïa, et on comprend ici que lorsqu'on parle de métanoïa, on met l'accent sur une dimension essentielle qui est la transformation. Car s'il est important de s'engager dans le chemin spirituel en Église, il est tout à fait essentiel d'entrer dans une dynamique de transformation, de métamorphosis, et ainsi d'ouvrir un avenir qui soit beaucoup plus ajusté à l'être en nous. Donc, nous avons ici une vertu thérapeutique qui est exprimée à travers la métanoïa, alors que la pénitence et le repentir ont beaucoup été accompagnés d'un tempérament moraliste. Et je crois qu'il faut différencier quand même la question de la morale, de l'éthique, avec la question du moralisme. Parce que autant l'éthique et la morale sont nécessaires et sont des repères pour le comportement et pour le vivre ensemble, autant la dimension du moralisme ajoute une connotation de culpabilité par rapport aux actes qui ont été commis. Nous allons voir que si la métanoïa est un changement de regard, elle est aussi une ouverture de regard. Et l'ouverture de regard est une invitation à ne pas enfermer l'autre dans ses paroles et dans ses actes, ne pas s'enfermer soi-même dans les paroles et les actes, et donc de pouvoir ici considérer la personne dans son intégrité et en même temps condamner des paroles et des actes qui ne seraient pas ajustés. Donc l'esprit de métanoïa est un esprit d'ouverture et certainement de pénétrer par le regard la profondeur de la réalité et de ne pas s'arrêter aux apparences. Donc de ne pas s'arrêter au comportement des personnes, mais voir qu'il y a derrière quelquefois le comportement d'une personne qui souffre et non pas d'abord une personne qui est méchante. Car les personnes qui sont violentes sont souvent des personnes qui souffrent et il s'agit plus de prendre soin de leur souffrance que de les accabler à cause d'une violence qu'il faut effectivement juguler, mais ce n'est pas la bonne méthode. Donc il y a un versant thérapeutique à la métanoïa. Alors je vais l'exprimer à travers différents aspects. Premier aspect, c'est toute l'origine chrétienne du baptême, qu'on appelle le rite de l'initiation chrétienne. Et si on dit initiation, c'est que ça dit un commencement, mais ça dit aussi toute la pédagogie de la vie chrétienne qui est inscrite dans le rite du baptême lui-même. Mais le rite du baptême ne fait pas de nous des saints, mais en tout cas nous introduit dans une dynamique de sainteté, ce qui n'est pas exactement la même chose. Vous voyez, au lieu de se croire arrivé, en fait, on est dans introduit dans la vie chrétienne et dans un chemin de sanctification. Or, dans le rite du baptême, il y a au début un exorcisme, et puis ensuite on demande au catéchumène, est-ce que tu dis oui au Christ et non à Satan ? Est-ce que tu es décidé pour vivre en Christ ? Ce qui doit s'accompagner d'un combat intérieur pour ne pas laisser la place et en tout cas ne plus être sous l'emprise des pulsions de mort. Donc, je pourrais le traduire, un oui au Christ qui est un oui à la vie, le Christ a dit « je suis la vie », et un non aux pulsions de mort. Donc, en fait, le principe de la métanoïa s'appuie sur un choix de vie, sur une décision de vie qui doit se conjuguer avec un renoncement à toute pulsion de mort, et nous sommes engagés là dans un combat intérieur, parce que nous savons bien que les pulsions de mort peuvent jaillir d'un moment à l'autre et qu'elles sont présentes. Et que autant on peut les repérer, autant nous ne pouvons jamais considérer que nous sommes totalement affranchis et libérés de ces pulsions qui, à certaines occasions, peuvent ressurgir dans nos vies. Donc ce oui à la vie, ce oui au Christ, ce non à la mort, ce non à Satan, comme fondateur de tout un cheminement de vie. Car si Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il fasse métanoïa et qu'il vive, on voit bien que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort, mais la vie. Il reste que nous avons à actualiser la vie en nous et que nous avons à nous décider pour la vie et en même temps à ne pas être en complicité avec les pulsions mortifères qui sont à l'intérieur de nous. Donc là, il y a une décision qui est dans l'ordre de la métanoïa, qui va ouvrir tout un champ intérieur où, en fait, il s'agit d'aller de l'avant. Comme dit l'apôtre Paul, je cours en avant, non pas comme battant l'air, mais luttant contre les puissances, les dominations et toutes les puissances du monde spirituel. Ainsi, étant engagé dans ce combat, il s'agit d'aller vers l'avant. Et donc ce qui est important, c'est non pas ce que je n'ai pas su être, c'est ce que je peux encore devenir par la grâce de Dieu. Ce qui est essentiel ici, c'est non pas de se tourner vers ses imperfections, mais de se tourner vers le haut, vers l'amour de Dieu. Ce n'est pas de regarder en arrière avec les reproches que l'on se fait, l'apitoiement sur soi-même, les accès de remords, mais vers l'avant, vers le devenir avec confiance. Et donc, ce qui est important, c'est non pas ce qui a été, mais c'est tout le chemin qu'à partir d'aujourd'hui, je peux faire, avec la grâce de Dieu. Donc vous voyez, d'emblée, l'esprit de la métanoïa est un esprit de vie, où il s'agit d'aller vers une plénitude de vie, et je crois que quand même le Christ nous a invités à la vie éternelle, c'est-à-dire à la vraie vie. Parce que quelquefois, on a pu croire que ce n'était pas le cas en regardant les chrétiens. Vous savez que Nietzsche a adressé un reproche sévère et, je dirais, crucifiant pour les chrétiens en disant « Si vous dites que Christ est ressuscité, alors pourquoi vous tirez cette gueule ?» Voilà. C'est-à-dire, comment vous pouvez avoir une tête défaite et être dans une attitude de, voilà, de quelque chose où un peu compassé, alors que vous chantez le Christ ressuscité, où est votre joie? Alors je crois qu'il s'agit de rappeler qu'il s'agit d'oser la vie en Christ, certainement oser la vie, pas n'importe comment, car comme dit l'apôtre Paul, tout est bon, mais tout n'est pas édifiant. Et la vie en Christ signifie ici, eh bien, une vie qui est selon le Christ et selon l'Évangile. D'autre part, le baptême, c'est la nouvelle naissance. Donc, autre dimension de la métanoïa, c'est alors que nous avons été amenés à l'existence par la rencontre de nos parents, et nous n'avons pas ici présidé à cette réalité, alors certains prétendent qu'ils ont choisi de venir. Encore à démontrer, parce qu'il n'y a encore personne qui a pu le prouver, mais peu importe que nous ayons choisi de venir, mais si nous avons choisi de venir, nous sommes encore plus responsables que si nous n'avons pas choisi de venir. Mais peut-être que nos parents nous ont conçus sans nous demander notre avis. Auquel cas, nous avons été amenés à l'existence, et maintenant que nous avons été amenés à l'existence, il nous est posé la question à chaque instant, est-ce que tu veux vivre? Est-ce que tu veux dire oui à la vie? Donc, il nous appartient maintenant de nous décider, de chacun se décider pour la vie. Et de ce fait, nous sommes responsables de notre devenir, car nous engageons notre liberté, notre responsabilité, et on ne pourra plus dire c'est nos parents, mais qu'est-ce que nous voulons faire de notre propre vie? Et je crois que là, nous passons dans un registre adulte, où nous ne pouvons pas nous vivre comme victimes de ce qui a été, mais prenant la responsabilité de ce qui sera. J'aime beaucoup Saint-Irénée de Lyon, au IIe siècle, qui dit que par la liberté, nous sommes responsables de notre propre destin. C'est pas rien de dire ça. Et Saint Jean Chrysostome insistera beaucoup, sur même Saint Grégoire de Nice aussi, sur ces questions, à savoir que nous sommes co-participant notre propre vie avec la grâce de Dieu, mais en même temps, eh bien, la façon dont nous répondons aux événements qui nous arrivent, que nous ne choisissons pas, est de notre liberté, et nous engageons notre liberté, et bien sûr notre conscience, et bien sûr notre responsabilité dans la manière de répondre aux événements qui surgissent dans nos vies. Donc, la métanoïa, c'est au lieu de considérer que nous sommes dans les conséquences du passé, nous ouvre sur cette prise de responsabilité dans l'avenir. Il y a un passage des évangiles qui exprime très très bien ce que je suis en train de dire. C'est l'évangile de Jean, au chapitre 9. Il y a les apôtres qui amènent au Christ, à Jésus, un aveugle de naissance. Et il demande à Jésus, est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il soit né aveugle? Donc, on pourrait dire aujourd'hui qu'il est posé la question transgénérationnelle. Et on renvoie la cause dans le passé. Et on dit, voilà, il est dans les conséquences de ce qui a été vécu transgénérationnellement, ou bien la conséquence de ses propres actes. Mais comme il est né enfant, le pauvre, il n'a pas beaucoup de responsabilités, quand même, que je sache. Et le Christ dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ça veut dire qu'il ne nie pas, quand même, la dimension transgénérationnelle, mais il va mettre l'accent sur le devenir, en disant, mais c'est, cela est advenu pour révéler la gloire de Dieu. Donc, au lieu d'interroger le passé dans un pourquoi, il renvoie au devenir dans un pourquoi. Ce passage est quand même très intéressant, parce que dans nos vies, on peut vivre l'absurde quelquefois. Un accident de voiture, un accident de la vie, comme on dit, ou bien un diagnostic du cancer, une maladie, comme on dit, quelque chose qui vous tombe dessus, qu'on n'a pas vu venir. Et c'est vrai qu'on est, on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Et face à cela, on peut être complètement démuni. Et à la limite, puisque c'est absurde, il n'y a pas de sens. Eh bien, le Christ est en train de nous dire que le sens se découvrira dans la traversée de l'épreuve. C'est-à-dire, maladie, accident, voilà, épreuve, de quelque manière que ce soit. On ne peut pas dire qu'il y a un sens immédiat à cette épreuve ou à ces épreuves, mais que par la traversée que l'on fera à cause de cette épreuve, on pourra trouver du sens. Que peut-être la maladie, l'accident, l'épreuve va être la cause d'un chemin de transformation ou d'un chemin d'éveil intérieur qui n'aurait jamais été qu'on n'aurait jamais engagé s'il n'y avait pas eu, je dirais malheureusement, cette épreuve. Ainsi, l'accent va être mis sur le chemin qui va s'enclencher non plus à cause, mais grâce à l'épreuve et à l'accident. Et la métanoïa, c'est passer du « à cause de » où on est victime, au « grâce à » où on prend sa vie en main. On sent bien ici le changement de tonalité. Et là, nous sommes dans une dimension très concrète, parce que je crois que personne n'est indemne des épreuves et des difficultés de la vie. Et le Christ nous donne ici une clé, je trouve, magnifique et importante, car ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important, c'est ce qu'on va en faire. Voilà. Donc, passer du pourquoi au pourquoi. Et nous sommes vraiment dans l'esprit de la métanoïa. Nous arrêtons de nous apitoyer et de perdre une énergie dans le fait d'être dans la souffrance et d'être miné intérieurement par ce qui se passe, pour ouvrir sur la grâce qui va se déverser et qui va nous accompagner pour un chemin de transformation. Donc nous sommes dans une perspective d'avenir et l'avenir est guidé par la grâce. Et donc, c'est une invitation à une mutation ici intérieure, qui est un renversement du désir et une réorientation du désir. Ainsi, au lieu que le désir soit meurtri par ce qui m'arrive, il s'agit d'investir ici un avenir, et un avenir qui peut m'amener à ce que j'aurais pas pu supposer ou même penser auparavant. Et nous avons des exemples de personnes qui ont fait un parcours extraordinaire à partir d'épreuves qui n'étaient pas faciles à assumer et à accepter d'abord. Nous avons un autre exemple, c'est le fils prodigue. Donc vous connaissez très bien cette parabole du fils prodigue, où un père avait deux fils, et puis le fils cadet demande la part d'héritage. Et finalement, le père répartit l'héritage entre les deux fils. Mais le fils cadet s'en va, il dépense tout dans la débauche, Et puis, il se retrouve dans une situation dramatique, dans une précarité, où il est en train de jalouser les cochons parce qu'ils ont des caroubes alors que lui n'a rien à manger. Voilà. Donc, dans l'univers juif, si on dit qu'il vit avec les cochons, c'est pour dire qu'il est dans l'état le plus dégradé parce qu'on n'a pas une haute opinion des cochons dans le monde juif. Donc ça veut dire que vraiment, il a atteint le plus bas degré de décrépitude, ce pauvre fils cadet. Et là, dit le texte, il rentre en lui-même, et nous avons le mouvement de métanoïa, c'est-à-dire de retournement. Il rentre en lui-même. Ça veut dire que là, il était dans des projets extérieurs, dans une certaine façon de penser sa vie, dans une manière de dépenser la richesse de son existence. Et rentrant à l'intérieur, il opère une mutation et il se décide de revenir vers le Père. Et donc il se lève, il va vers son Père et comme vous connaissez l'histoire, eh bien, dès que son Père l'aperçoit, ça veut dire qu'il le guettait. Voilà, et le Père court à la rencontre de son fils cadet. Puis il l'accueille en lui remettant une robe blanche, un anneau au doigt, des chaussures. Enfin, voilà, il l'accueille de manière royale. Et ils font la fête. Et vous savez que quand le fils aîné rentre, il est furieux de ce qu'on fasse la fête pour ce fils dévoyé. D'ailleurs, il l'appelle ton fils. Il ne dit pas mon frère. Il dit ton fils. Et il se met en colère. Alors, je crois que cette parabole interroge sur le fait de la conversion, du repentir et de la métanoïa, mais aussi sur la dimension de l'identité intérieure, sur l'identité royale. Parce que le fils cadet est parti, il revient vers le père, et il est accueilli comme un fils. Donc, s'il a quitté, c'est que il a osé sa liberté, et ensuite, il revient, certainement, certains pourront dire, par nécessité, mais en même temps, il revient vers le Père pour demander pardon au Père, pour dire qu'il y a une conversion intérieure qui s'est faite. Or, le fils aîné, lui, il est toujours resté à servir son Père, mais il s'est vécu comme un serviteur plus que comme un fils. Comment on le sait ? Parce que le Père dit « Mais tu étais toujours avec moi » et le fils réclamait, il aurait voulu que son père lui donne des agneaux pour faire la fête avec ses amis, et il a dit, mais je comprends pas, tu es toujours avec moi, et donc tout ce qui est à moi est à toi, et comme tout ce qui est à toi est à moi. Voilà une parole de fils, qui va être dite par le Christ, qui est le fils, qui va dire, tout ce qui est au père est à moi, et tout ce qui est à moi est au père. Et nous savons par là que le fils aîné s'est pas vécu comme fils, il s'est vécu comme serviteur. Et donc, c'est toute la question de l'identité, et cette question d'identité, elle est immense, parce que nous ne vivons comme fils de nos parents, mais plus fondamentalement, nous sommes fils du Très-Haut, fils de Dieu. Ainsi, la conversion consiste à reconnaître cette identité première, puisque nous sommes créés à l'image de Dieu, et que nous sommes potentiellement, je dirais, c'est-à-dire en capacité de devenir fils par cette dynamique de l'image en nous, et que notre vocation est de devenir fils. Mais devenir fils de Dieu veut dire que nous sommes engendrés de toute éternité et que nous avons été adoptés par nos parents biologiques. Une perspective qui se retourne ici. Et le Christ dit, tu quitteras ton père et ta mère, et en même temps, tu honoreras ton père et ta mère. Dans les évangiles, il y a souvent des contradictions, et les contradictions sont à prendre ensemble. Comme deux opposés qui semble irréconciliable. Je regarde Vassarab Nicolescu parce que voilà, on est sur ici effectivement les oppositions qui ont une cohérence sur un autre plan de réalité. Donc, sur un premier plan, eh bien, quitter, c'est rompre, et ce n'est pas honorer. Honorer, ce n'est pas quitter, alors que là, il est dit, et tu quitteras, et tu honoreras. Donc, et quitter et honorer, ça signifie qu'il s'agit de quitter une relation, ici, fusionnelle avec les parents, ou en tout cas, de quitter dans le sens de ne plus se vivre d'abord comme fils de nos parents, mais avant tout comme fils de Dieu, et d'honorer les parents comme des personnes qui nous ont mis au monde, bien sûr, mais aussi comme des personnes, puisque nous passons ici de l'individu à la personne. C'est-à-dire de l'homme selon le monde à l'homme selon Dieu. Et nous avons ici cette métanoïa fondamentale. Ce qui a des implications, parce que autant il s'agit d'honorer les parents, autant il s'agit d'oser sa propre vie et d'oser sa propre liberté. Ce que le fils des parents n'ose pas toujours, mais que le fils de Dieu ou la fille de Dieu doit oser pour lui-même ou pour elle-même. Donc un chemin de libération, ici, mais de libération dans le respect de l'autre. Il ne s'agit pas ici d'être dans la révolte. Il n'y a pas lieu de révolte. Mais il y a lieu de trouver sa juste identité intérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Naître à soi-même en tant que fils de Dieu. Cette nouvelle naissance, elle est effectivement inscrite dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Vous savez qu'un docteur un docteur juif, vient voir de nuit Jésus et lui dit « Qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans la vie éternelle ?» Et Jésus répond « Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. » Et Nicodème, qui est docteur en Israël, répond, mais comment je pourrais re-rentrer dans le ventre de ma mère pour en ressortir? Et Jésus lui dit, comment tu es docteur en théologie et tu ne sais pas ces choses? Pour dire que, en fait, l'essentiel dans la théologie, c'est de comprendre justement cette dimension que nous avons un être de nouveau. Alors nous sommes tous nés à ce monde, clairement. Et nous sommes nés de l'amour de nos parents. Qu'est-ce que veut dire naître de nouveau ? Veut dire naître à soi-même, en tant que fils de Dieu ou fille de Dieu. Et à ce moment-là, comme le dit Grégoire de Nice, nous devenons à nous-mêmes nos propres parents. C'est-à-dire, nous avons à nous mettre au monde, en ce monde, avant que de partir pour l'autre monde. Donc, d'advenir à ce que je suis. Ce « je suis » étant fondé dans la pensée divine de toute éternité, selon saint Maxime le Confesseur. Donc l'accès au « je », ce qui veut dire l'accès à la dimension de la personne, donc cette dimension mystérieuse qui préside à ma singularité et qui fait que je ne suis pas comparable à quiconque. Du point de vue de l'individu, nous pouvons être dans les rapports de comparaison, nous savons, puisque c'est l'usage dans le monde, et nous ne sommes pas non plus innocents de ce rapport de comparaison à l'autre, qui fait qu'on est en évaluation par rapport à l'autre, puis en jalousie par rapport à l'autre, et finalement en conflit par rapport aux autres, parce que ce que l'autre a de plus, je l'ai en moins, etc. Et donc cette dimension de rivalité qui apparaissent dans la Bible à travers les jumeaux, par exemple, Caïn et Abel, puis après Jacob et Ésaü, nous voyons ces gémilités, et en fait ces gémilités sont toujours des gémilités conflictuelles. Donc on est sur le rapport ici de l'individu, mais sur le rapport de la personne, chacun est unique et n'a pas à démontrer ce qu'il est, il a à vivre cette unicité, ce qui n'est pas la même chose. Et du point de vue de la personne, nous ne sommes comparables à aucun autre parce que chacun est unique et incomparable aux autres. Donc il y a ici un passage sur un autre plan, une vraie métanoïa qui est dit dans ce récit de Jésus et de Nicodème au chapitre 3 et qui est profondément initiatique et qui nous dit le sens de la vie sur terre. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes ici, sur terre, pour advenir chacun à sa dimension de personne, à sa dimension d'être, qui est en correspondance avec l'appel de Dieu pour chacun. Comme il est dit dans Isaïe, « Dès le sein de ma mère, Dieu m'a appelé par mon nom. » Ce nom, dans l'Apocalypse, il est dit qu'il est inscrit sur un caillou blanc, et nous le découvrirons quand nous le serons devenus. Alors, comment toucher cette dimension de l'unicité de l'être? Eh bien, dans tout un processus intérieur, où il s'agit de faire la distinction entre tout ce qui s'est imprégné en moi de conditionnement, d'influence, et qui me modèle dans une certaine forme de comportement, mais je ne suis pas cela. Donc de bien regarder en quoi nous sommes configurés dans ce monde, mais ce n'est pas ce monde qui nous donne l'identité fondamentale, c'est Dieu. Donc la métanoïa, c'est effectivement de regarder que dans notre être essentiel, que nous avons à découvrir, nous sommes autres par rapport à ce que le monde a fait de nous. Donc comment se dégager de toute l'imprégnation de ce monde pour aller vers cette identité principielle qui nous fonde. J'aime beaucoup dire ici que nous sommes tous participants de la même humanité et nous pouvons tous nous reconnaître comme des êtres humains et que de ce point de vue-là, nous partageons la même humanité. Mais chacun, d'une manière mystérieuse, exprime l'humanité commune d'une manière unique, dans un mode d'être unique et exprimé dans un visage unique et même un génome unique. Donc, en même temps, cette articulation entre la participation commune à l'humanité, et c'est comme ça que nous communiquons, parce que nous participons tous à la même humanité, donc nous avons tout en commun, mais en même temps, nous sommes tous différents, parce que chacun met en mouvement l'humanité commune d'une manière unique. Et donc, nous pouvons dire que la personne est le mode d'existence de la nature humaine. Donc, c'est par les personnes que nous sommes que nous mettons en mouvement la nature humaine. Alors, en fait, je pourrais dire ici que la nature humaine, je ne connais pas. La nature humaine en soi est une abstraction. On connaît la nature humaine, l'humanité, à travers des personnes. Et c'est bien ce que révèle Jésus à Nicodème. Qu'il s'agit de naître à nous-mêmes, il s'agit de naître en tant que personne. Donc de faire émerger la dimension de la personne du milieu de la nature. Vous voyez, tout un programme. Déjà, Dieu avait dit à Abraham, Genèse chapitre 12, « Abraham, va vers toi. Va vers toi, quitte ton pays, ta parenté. » Pour aller vers soi-même, il s'agit de quitter. Pour aller vers soi-même, il s'agit de quitter, ça veut dire de nommer, eh bien, toute l'influence culturelle, quitter le pays, quitter la culture, quitter, je dirais, tout ce qui nous a imprégné de ce monde, quitter aussi l'univers familial pour se trouver soi-même, non pas pour se révolter contre, mais pas du tout, mais pour se découvrir comme sujet de la culture, sujet de ce monde, et non pas objet de ce monde, c'est-à-dire ne plus être configuré selon ce monde, mais découvrir l'être en nous qui est configuré selon Dieu. Voilà, je dirais, la clé fondamentale de la métanoïa, qui est tout l'avènement du sujet et le fait d'advenir au je suis que nous sommes, c'est-à-dire à l'être fondamental, et aller vers soi-même n'est pas contraire à aller vers Dieu, pour la simple et bonne raison, c'est que Dieu est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, et plus on va vers Dieu, plus on va vers l'intime de nous-mêmes, et plus on va vers l'intime de nous-mêmes, plus on va vers Dieu. Les deux sont conjoints. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec la formule catéchétique qui dit qu'on doit aller vers Dieu dans l'oubli de soi. Qu'on aille vers Dieu dans la non-préoccupation de soi-même, ça se conçoit, et dans la non-préoccupation de l'ego, ça se conçoit, mais pas dans l'oubli de soi. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'en faisant l'impasse de soi-même, on aille vers Dieu. D'ailleurs, les commandements sont fondamentaux ici. Il est dit, tu aimeras ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et les trois sont un, c'est-à-dire Dieu, le prochain, moi-même. Puisque Jésus a dit, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. À l'un de ces plus petits de mes frères, ça nomme le prochain, mais peut-être ça peut nommer aussi le plus petit en moi. Comme le dit quelqu'un que je vénère beaucoup, qui s'appelle Jean Vanier, qui est un catholique, hein, qui est fondateur des communautés de l'Arche, qui s'occupe des personnes qui ont des handicaps. Il dit une chose que j'aime beaucoup, c'est que quand on se présente, on fait un CV, ou quand on se présente aux autres, on présente le meilleur jour, on présente nos atouts, on présente nos qualités, on présente ce qu'on a de meilleur. Mais il dit, ce faisant, quand on présente ce qu'on a de meilleur, on refoule le plus moche en nous, c'est son langage, ce qu'on ne veut pas montrer, le plus faible, le plus fragile, le plus vulnérable. Mais, dit-il, comme Jésus a dit, ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, est-ce qu'on ne refoule pas le Christ ? C'est intéressant de voir que quand on veut paraître et finalement montrer le meilleur de nous-mêmes, est-ce que ce n'est pas au détriment du plus fragile que nous essayons de refouler au-dedans ? Et à ce moment-là, est-ce que ce plus fragile n'est pas le Christ lui-même ? Nous voyons ici que ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait, ça concerne l'autre. Mais ça peut concerner aussi le plus petit à l'intérieur de nous-mêmes. Donc pour dire que les trois sont un ici, en tout cas, Dieu, le prochain et moi-même, et que les choses ne sont pas contraires. C'est-à-dire, aller vers soi-même n'est pas contraire à aller vers Dieu, aller vers Dieu n'est pas contraire à aller vers le prochain n'est pas contraire à aller vers soi-même. Il y a un juif hassidique qui s'appelle Martin Buber, qui a une formule magnifique, en disant que toute vie spirituelle commence par soi-même. Et donc, tout commence par un retour à soi, comme le fils prodigue rentre en lui-même. Mais il dit, on irait vers un monstre d'égoïsme si on finissait par soi-même. Donc il dit, autant il s'agit de commencer par soi-même, autant il s'agit de finir et d'aboutir à l'autre. Mais l'autre, il entend le petit autre, le prochain, mais le grand autre aussi, qui est Dieu. Donc, commencer par soi et finir par l'autre, c'est-à-dire par celui qui nous ouvre sur la dimension de l'altérité. Donc vous voyez, tout cet épisode de la nouvelle naissance est très instructif pour nous, et l'évangile de Jean, d'une manière générale, nous signifie des étapes fondamentales dans le chemin de croissance de l'être, et qui s'inscrit dans toute une dynamique de métanoïa. D'ailleurs, Jean le Baptiste invitait au repentir, à la métanoïa, et il invitait à la métanoïa, comme le Christ ensuite a invité aussi à la métanoïa, parce que tout dépend, en finale, de notre disposition du cœur. Je voudrais expliciter ce fait. Certainement, d'une manière fondamentale, le salut s'opère par la grâce. Personne ne pourra dire le contraire. Le salut s'opère par la grâce. Et la grâce est répandue sur tous. C'est ce que dit le Christ dans les évangiles, où il dit que Dieu fait briller son soleil sur les bons et sur les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les impies. Ça dit que la grâce est répandue sur tous. Mais tous ne se mettent pas en disposition d'accueillir la grâce. J'étais heureux de trouver l'autre jour une formule que j'emploie depuis des années, et j'ai vu que Grégoire de Nice l'a dit avant moi, donc je le respecte. Voilà, et Saint Grégoire de Nice disait « Il fait nuit en plein jour pour celui qui a les yeux fermés. » Donc, le soleil brille. La grâce est là, mais celui qui ferme les yeux et qui se refuse à la grâce, et la grâce ne peut pas fonctionner pour lui. Ou pour elle, évidemment. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on pourra dire que tout dépend de la disposition du cœur. On pourra dire tout dépend de la grâce, c'était bien évident, mais en même temps, si on ne se met pas en disposition d'accueillir la grâce ne peut pas être opérative pour nous. Ainsi, nous avons notre participation et notre liberté qui devient un critère fondamental. C'est là où, dans la tradition orthodoxe, nous allons beaucoup insister sur la sainte synergie, c'est-à-dire la coopération de la grâce et de la liberté. Qu'effectivement, rien ne peut se faire sans la grâce et il n'y a aucun progrès spirituel sans la grâce du Saint-Esprit. Mais en même temps, comme le dit Saint-Irénée de Lyon, on ne pourra pas dire que tout dépend de la grâce, mais le chemin de sanctification dépend aussi de la liberté de l'homme parce qu'il se doit de consentir à chaque instant de sa vie à la grâce. Et donc, ici, ça met l'accent sur la dimension de la métanoïa, à savoir que si en plein jour j'ai les yeux fermés, il s'agit que je change ma disposition et j'ouvre les yeux pour accueillir la lumière. Si mon cœur est fermé, il s'agit de faire ce métanoïa pour transformer le cœur de pierre en cœur de chair, ou plutôt d'ouvrir mon cœur à la grâce pour que la grâce transforme le cœur de pierre en cœur de chair. Ainsi, la métanoïa nous renvoie à toute la dimension de la liberté intérieure. Redoutable liberté, puisque par la liberté, on peut s'empêcher d'accueillir la grâce, ou bien on peut être disposé à la grâce. Je voudrais ici peut-être ajouter une chose, c'est que j'ai la conviction aujourd'hui que la vie nous est donnée et que tout est vie en nous. Et il est possible, il faut que je continue de travailler dans ce sens en tout cas, parce que c'est une thèse que je veux apporter, c'est que les pulsions de mort en nous ne sont pas des pulsions de mort qui sont inscrites en nous à l'origine, mais ce sont des éléments de vie que nous avons occultés ou refusés en nous. Ainsi, il n'y aurait pas en nous de bien et de mal, et Saint Grégoire de Nice, encore une fois, va dans ce sens-là, mais il dit que le mal n'est pas ontologique, il n'est pas inscrit dans l'ontologie de notre nature, mais que le mal est le fruit de la liberté, et si on ne considère pas la dimension de la liberté, on ne découvre pas le mal. Ce qui veut dire que nous portons en nous des capacités de vie, nous portons en nous la vie, mais ne pas mettre la vie en mouvement, de ne pas, comme on dit, cultiver les talents, mais c'est-à-dire faire circuler la vie, engendre en nous du refoulement de vie qui préside aux pulsions de mort. Donc on n'est pas sur le même registre que Freud ici, qui considère que la pulsion de mort était aussi forte que la pulsion de vie, mais sur un registre où en fait la non-mise en mouvement de la vie se retourne contre nous en pulsion de mort. Donc on peut creuser au niveau clinique ici, et au niveau théologique, mais il y a au moins Saint Grégoire de Nice qui est dans ce sens-là, et je crois même Saint Isaac le Syrien. Et c'est important parce que ça veut dire qu'au niveau thérapeutique, quand quelqu'un exprime une pulsion de mort, il s'agit d'aller voir quelle est la pulsion de vie qui n'a pas été mise en mouvement ou reconnue. Parce que si on regarde par exemple la violence des jeunes dans les banlieues par exemple, ou la violence ordinaire, malheureusement trop ordinaire dans le monde, eh bien, on peut regarder que cette violence, c'est de la vie qui n'a pas pu s'exprimer. Et comme la vie n'a pas pu s'exprimer dans une dynamique, je dirais, créatrice et une dynamique de vie, eh bien, elle est une énergie qui de révolte, qui se retourne dans l'autre sens et qui devient une énergie mortifère. Donc, ici, métanoïa, ça signifie qu'il s'agit d'être dans la reconnaissance de la vie qui nous est donnée. Et donc, il y a ici toute la dimension, non seulement de gratitude, mais une dimension eucharistique. C'est-à-dire, l'eucharistie, c'est l'action de grâce. Mais l'action de grâce, c'est la reconnaissance des grâces. Et que peut-être on s'éloigne de la vie spirituelle, et donc de l'Église, par la non-reconnaissance des grâces. Comment ? Par le fait qu'on considère que la vie n'est pas un miracle, mais qu'elle est naturelle, que ma respiration n'est pas un miracle, mais qu'elle est naturelle, que le fait que je traverse l'existence sans trop de problèmes, ce n'est pas un miracle, mais c'est normal parce que je suis beau, je suis intelligent, et que voilà, c'est normal que ça se passe bien pour moi. Mais en fait, on gomme ici tout le miracle, tout le mystère, et finalement toute la grâce. Or, en fait, nous sommes en vie par le fruit de la grâce de chaque instant. La vie est une grâce. Et le fait d'être vivant et d'être dans le désir intérieur et l'aspiration à être, tout cela, c'est le fruit d'une grâce, ne se pourrait pas selon une nature qui ne serait pas pénétrée par la grâce. Donc, ça met l'accent ici sur le fait du mystère et la reconnaissance de la grâce qui est en action. Et ça nous invite à reconnaître la grâce, à l'accueillir, et finalement à la faire circuler, parce que la grâce ne nous est pas donnée pour nous, elle nous est donnée certainement pour notre vie, mais aussi pour que nous puissions la répandre ou la faire circuler dans le monde. Ainsi, nous avons tout reçu gratuitement, et nous avons à donner tout gratuitement, comme le dit l'Évangile. En fait, qui dit la grâce dit la gratuité, et nous avons à faire circuler gratuitement la grâce qui nous est donnée gratuitement. Et nous sommes ici dans une démarche eucharistique, c'est-à-dire une action de grâce qui reconnaît la grâce pour la faire circuler, et ainsi pour que la grâce puisse se répandre dans le monde. Donc c'est un chemin intérieur. Ce chemin de la métanoïa, il est tracé dans toute l'histoire biblique, notamment dans toute l'histoire du peuple hébreu qui était en exil en Mitzraïm, c'est-à-dire en Égypte, et qui, vous savez, est resté 430 ans en Égypte. En exil. En exil veut dire qu'il n'était pas dans sa patrie. Exilé. Exilé, au sens biblique, ça signifie qu'il n'est pas dans le rapport de l'être. Il est en exil de l'être. Dans le troisième chapitre de la Genèse, on parle de la chute, mais le mot chute n'est pas dans le chapitre. Il est nulle part dans le chapitre. Donc on a interprété dans le sens de la chute, mais en fait, ce qui est clair, c'est que Adam rompt la relation avec Dieu et se retrouve en exil de Dieu, c'est-à-dire en rupture de relation. Ça, c'est l'exil. Eh bien, le peuple hébreu en Égypte est en rupture de relation. Et il va suivre un chemin de l'exode. Et l'exode, c'est le retour vers la relation. Donc, c'est le chemin de la terre d'exil vers la terre promise. Or, en Égypte, le peuple hébreu était aussi en esclavage. Quand on est en exil dans ce monde, on est en esclavage. Ça veut dire quoi ? Eh bien, si on n'est pas dans l'axe de la dimension spirituelle et de la filiation divine, nous sommes esclaves des éléments de ce monde. Et regardons, nous sommes esclaves d'un système, nous sommes esclaves de tout un mode de vie, nous sommes aussi complètement dépendants des réalités de ce monde, et c'est ça la nature de l'exil. Alors que celui qui a vécu le chemin vers la terre promise, il est libre dans ce monde, il est dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde, il ne se vit pas comme étant de ce monde, mais il est dans ce monde pour témoigner de l'être dans ce monde. Donc, tout Tout le chemin de la métanoïa, ici, consiste à passer de l'état d'exil, c'est-à-dire de rapport au monde, vers une relation avec Dieu au sein de ce monde. Par la relation d'exil, par le dynamique d'exil, nous sommes dépendants du regard de l'autre, nous sommes dépendants des conditions du monde, nous sommes dépendants de toutes les réalités extérieures, et donc nous sommes en absence de liberté dans le sens de libération, et nous avons à conquérir la vraie liberté, la terre de la liberté, qui est la terre promise. Donc ça veut dire que la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on exerce au départ, mais que nous avons à conquérir. J'aime bien Nicolas Berdiaïev, qui dit très bien les choses en disant que la différence entre la liberté divine et la liberté humaine, c'est que la liberté divine, Dieu l'exerce en tout temps, mais que la liberté humaine est à conquérir, elle est en devenir. Et nous sommes en devenir d'être libres. Et pour l'instant, nous sommes dans un caractère d'autonomie, mais l'autonomie ne veut pas dire forcément la liberté. Ce n'est pas parce qu'on est autonome qu'on est libre. C'est-à-dire qu'on peut être autonome et complètement sous l'influence des réalités du monde et complètement, je dirais, sous l'emprise des réalités extérieures, des conditionnements et même de l'influence des autres, voire même dépendant des attitudes des autres. Et donc la métanoïa ici dit tout ce retour de la terre d'exil vers la terre promise. Mais dans ce cheminement-là, nous retrouvons ce qui s'est passé pour le fils prodigue. Les Hébreux vont prier Dieu. Moïse va être suscité du cœur du peuple hébreu et partir en terre de Madian pendant 40 ans. Et là, il va monter sur la montagne, avoir une expérience de lumière au buisson ardent. Et fort de cette expérience, va descendre dans les ténèbres de l'Égypte. C'est très intéressant parce que ça dit la réalité de chaque être humain, où il y a d'abord un éclair de conscience, il y a d'abord une lumière intérieure, et s'appuyant sur cette lumière, nous allons pouvoir descendre dans l'enfer intérieur de l'âme qui est dévoyée pour entraîner l'âme vers la terre promise, et c'est tout le chemin de l'Exode, qui va passer par l'intégration de la loi, l'étape de la loi, mais qui va aussi devoir se libérer de toutes les complaisances avec la terre d'esclavage. Parce que vous savez, quand les Juifs ont quitté l'Égypte, alors ils étaient libres dans le désert, mais en même temps, ils hurlaient parce qu'ils étaient désécurisés. Pourquoi ? Parce que même s'ils étaient en esclavage, en Égypte, ils avaient une petite cabane, puis ils avaient à manger tous les jours. Alors que là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien dans le désert. Et donc, c'est pas facile d'assumer la liberté. Et assumer la liberté, certainement, suppose une certaine maturité. Et c'est tout ce chemin de maturité qu'ils ont dû assumer dans le désert. Donc, je crois que le chemin de conversion est un chemin de maturité, c'est-à-dire s'appuie sur cette reconnaissance de l'être et ce chemin vers l'être, mais en même temps demande une expérience intérieure pour peu à peu oser être soi-même, oser sa différence, oser sa liberté, et donc oser, je dirais, accepter de vivre selon Dieu dans ce monde, malgré les objections, pour être gentil, voire même les contradictions du monde. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire sur la dimension de la métanoïa en tant que nouvelle naissance, en tant que conversion intérieure, en tant que tout dépend de la grâce et en même temps de notre disposition du cœur. Et c'est là où nous avons à nous convertir chaque jour. Mais nous convertir ne veut pas dire ici être une conversion au sens de revenir dans la religion, de revenir dans l'Église, mais il veut dire se convertir au Christ qui est là présent, qui frappe à la porte. Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai chez lui pour souper avec lui, moi près de lui et lui près de moi. Donc la clenche est de notre côté et il attend qu'on veuille bien ouvrir la porte. Donc nous avons ici une position déterminante. C'est-à-dire, selon notre liberté, nous pouvons ouvrir la porte, donc ça veut dire ouvrir notre cœur, ou bien fermer notre cœur. Et c'est là où la dimension de métanoïa revêt toute son importance. Et c'est pour ça que l'Église insiste beaucoup sur la dimension métanoïa, c'est-à-dire sur le repentir, la pénitence, pour que nous tournions pleinement vers Dieu, qui lui peut nous sanctifier et nous amener vers la participation à la vie divine. Et c'est bien cela le projet de Dieu. Et donc c'est bien cela coopérer au projet que de dire oui. Et on se crée son enfer en résistant à ce projet, c'est-à-dire en résistant à l'appel de la grâce et à l'appel de Dieu dans le sens de l'accomplissement. Donc nous avons là une grande responsabilité. Et de ce point de vue-là, chacun est responsable de son propre devenir spirituel. Et ce que je trouve important, c'est que l'accent est mis ici sur la dimension de la responsabilité et non pas la dimension de la culpabilité, parce que Dieu vient nous chercher à partir du moment où nous crions vers lui, et pour nous relever, et sans cesse il nous relève et nous invite à marcher comme il a relevé les aveugles au bord de la route, et les invite à marcher en disant non pas je t'ai guéri, mais va, ta foi t'a sauvé, pour dire que ici la disposition du cœur est une dimension de foi et que finalement nous sommes sauvés par la grâce, mais comme dit l'apôtre Paul, par le moyen de la foi, et c'est ça la conversion, et c'est ça la métanoïa. Voilà, merci de votre écoute. Alors, on a 10 minutes, un quart d'heure pour des questions maintenant sur ce thème. Oui.
Il y a l'instant de créer son enfer par la résistance.
Oui.
On oppose à l'appel. D'où vient, enfin, je ne sais pas pourquoi forcément chercher l'origine, mais il faut se tourner vers l'avenir. Mais quand même, quand on fait, on sent cette résistance qui est extrêmement prégnante. D'où ça vient, cette résistance? Et pourquoi c'est si fort, comme si elle était nourrie? Autant qu'on entend l'appel, autant cette résistance est nourrie.
Oui. Moi, je crois d'abord qu'il y a un quiproquo. Parce que je crois que chacun aspire à vivre, aspire à être et aspire à une plénitude. Donc, puisque Dieu nous propose cette plénitude, comment se fait-il que nous puissions être dans une résistance? Il est bien possible que nous ayons plus peur de la lumière que des ténèbres. Et que cet appel vient solliciter en nous un engagement, une responsabilité, et qu'il y a quelque chose de difficile à affronter d'abord, puis peut-être à assumer. Parce que, regardez toutes le comportement humain, il a tendance à fuir dans le monde. Mais peut-être que tout l'univers de la consommation est un univers des compensations, parce que nous avons du mal à assumer la réalité de l'être en nous. Alors, je crois qu'il y a une dimension de peur, il y a une dimension de résistance qui est inconsciente la plupart du temps. Il y a peu d'êtres humains qui consciemment résistent. Ça existe quand même, hein, on doit le dire. Hein. Mais je crois que il y a le fait d'une appréhension de l'être. Maintenant, vous savez, il faut resituer les choses parce que il y a toutes les dimensions imaginaires. C'est-à-dire, si on regarde l'image qu'on donne de la sainteté, ça veut dire qu'on est dans le dépouillement, dans une ascèse qui est quand même exigeante, hein, et que on n'a pas forcément le courage de cette ascèse, et on n'a pas forcément le désir d'assumer tout ce que représente le chemin de sainteté, parce que souvent ça a été présenté dans un rapport de mortification et que finalement ça ne nous engage pas. Déjà, je crois qu'il s'agit d'éliminer les fausses idées sur la sainteté de ce point de vue-là, parce que Dieu ne demande pas la mortification, et il ne demande pas, qu'on se mortifie pour lui. Mais en même temps, il est clair que pour aller vers la vie, il s'agit d'accepter aussi la croix. Parce que le Christ, pour aller vers la résurrection, il a dû aussi, à Gethsémani, accepter la croix. Et je crois qu'il y a quelque chose ici qui est difficile pour nous, c'est d'accepter la croix. Simplement, si on la voit sous le registre de la métanoïa, alors, comme dit l'apôtre Paul, pour aller vers Dieu, nous allons être crucifiés au monde. Mais si nous vivons la croix comme une croix glorieuse, c'est-à-dire dans le sens que nous avons dit tout à l'heure avec l'aveugle-né, que chaque épreuve peut être une occasion de croissance spirituelle, que chaque situation peut être une occasion de grandir, alors à ce moment-là, nous allons être crucifiés, nous avons des choses à perdre, et peut-être nous allons perdre du point de vue matériel, peut-être nous allons perdre du point de vue de la relation avec l'autre, en tout cas peut-être de ce qui n'est pas ajusté dans la relation, mais pour un plus de vie. Mais peut-être ce que nous voyons d'abord, et ce qui nous fait souffrir, c'est la perte. Parce qu'il y a des deuils à vivre. Et que peut-être nous ne sommes pas prêts à certains deuils, parce que la vie en Dieu ne se conjugue pas avec la vie au monde. Et comme dit très bien l'apôtre Paul, si on veut être en Dieu, on va être crucifié au monde, mais si on est au monde, on est crucifié en Dieu. Alors voilà, je crois que là, il y a des lieux de résistance. C'est-à-dire, nous, on voudrait bien, en même temps, avoir un pied dans le royaume et un pied sur terre, et pouvoir conjuguer les deux. Mais les deux ne sont pas réconciliables. Donc, le choix est difficile, et pour nous, il est peut-être facile, en tout cas, pas trop difficile, de désirer la vie spirituelle et de mettre un pied dans le royaume, mais c'est très difficile de ramener le deuxième. Et en même temps, on a des complaisances avec la réalité de ce monde, et c'est bien dans le quitter, va, quitte ton pays, cette difficulté à sortir des aliénations plus ou moins volontaires, et finalement des dépendances, et finalement des complaisances avec la réalité de ce monde, et c'est là où il y a de la résistance.
Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a un temps pour tout?
On peut dire ça. Enfin, ça me rappelle quelqu'un comme ça, une femme qui était venue à Sainte-Croix et qui avait dit au Seigneur, écoute, laisse-moi faire ma vie. Et à 80 ans, elle s'est dit, oh là, mais c'est grand temps que je m'y mette, comme ça. Mais après, c'est pas facile de, on se convertit pas comme ça, c'est pas en appuyant sur un bouton que ça marche tout seul. Donc, à mon avis, il vaut mieux quand même commencer. Il y a un autre exemple aussi, c'est Charles de Foucault aussi. C'est Charles de Foucault, où Dieu est venu le chercher quand il avait 18 ans. Il dit, oh, mais attends, moi j'ai envie de faire certaines expériences dans le monde d'abord, etc. Mais en fait, quand Dieu vient, c'est le moment de l'appel. Donc après, si on refuse cet appel, peut-être qu'on pourrait être re-sollicité, mais on a raté une grâce. Donc ça veut dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer, mais il n'est jamais trop tôt pour commencer.
Il y aurait des êtres élus alors d'emblée, c'est-à-dire que comment se fait-il qu'au baptême, donc, tout est posé avec la grâce? Je repense à l'Eucharistie plus tard, mais la métanoïa, finalement, c'est tout à fait au terme de la vie, ou alors il y a des êtres élus dès le départ qui sont déjà nés à une seconde vie, très tôt.
Non, pas du tout. C'est-à-dire dans ce que je viens de dire. Donc si on est baptisé, par exemple, quand on est enfant.
Oui, on est baptisé.
Oui, mais en même temps, comme on est baptisé, on est restauré dans la vie en Christ. Et ensuite, le baptême vaut par l'actualisation du baptême. Et c'est justement toute la métanoïa qui est l'actualisation, qui se fait tout au cours de la vie, qui se fait pas à la fin. C'est justement actualiser la grâce baptismale, c'est saint Séraphin de Sarov qui dit que nous avons reçu la plénitude de la grâce au moment du baptême, mais toute l'œuvre de la vie chrétienne, c'est d'actualiser cette grâce baptismale, et c'est justement le mouvement de la métanoïa qui est de chaque instant. Donc la métanoïa, c'est comment se disposer à cette grâce à chaque instant, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer donc, pendant toute l'heure précédente.
Oui, comment se fait-il qu'il y a des êtres qui sont déjà presque élus de Dieu, très tôt?
On n'a pas eu des saints au berceau. Quand même, quand on voit les grands saints que nous pouvons nommer, saint Silouane, il y a tout un cheminement de liberté. Hein. C'est pas donné d'avance. Si c'est donné en puissance, mais ensuite il s'agit que ce soit actualisé, et c'est actualisé dans un chemin de vie entier. Et donc on peut pas dire qu'il y a ceux qui sont élus d'avance et ceux qui ne sont pas élus, nous sommes tous appelés. Et l'élection dépend de notre liberté. C'est-à-dire, tout le monde est appelé, il y a peu d'élus, mais parce que peu répondent à l'appel. Donc, l'élection dépend de nous. Dans le milieu protestant, on dit qu'il y a une prédestination. Donc certains sont prédestinés à être élus, tant mieux pour eux, et d'autres sont prédestinés à ne pas être élus. C'est un peu rude, hein ? Ça veut dire qu'il y aurait des préférences en Dieu, il aurait déjà préféré ce qu'il veut, voilà. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de voir, et nous pensons que ici, chacun est appelé par Dieu, puisque celui qui ne serait pas appelé par Dieu ne serait pas vivant, tout simplement. On ne peut pas être en vie sans être appelé par Dieu. Mais maintenant, chacun répond dans sa liberté, ou non, et plus ou moins, selon sa propre liberté, et s'élit lui-même par le fait de sa réponse. Et ceci est à actualiser à chaque instant.
Moi, j'ai été très intéressée par la question de la pulsion de vie,
oui, c'est ça.
Et je me demande, par rapport à cette question que Freud disait justement... mettait un peu sur le en égalité ces deux pulsions contradictoires. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui vient là à l'esprit des niveaux de réalité, c'est-à-dire que Freud a quand même eu un problème avec la question de la vie spirituelle et la question de ce qu'on appelle la vie au sens de l'esprit. Et donc dans l'existence, en effet, notre incarnation nous fait vivre et comprendre et que y a la vie et la mort tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où on se parle, il y a des cellules qui meurent et il y en a d'autres qui apparaissent. À la naissance, un enfant peut vivre ou ne pas recevoir le souffle ou le recevoir mal et mourir aussi. Donc cette question de naître avec une finitude de notre incarnation et quelque chose que nous expérimentons tous. Donc cette chose-là, elle se comprend sur ce plan-là. Après, si on effectivement à un autre niveau de réalité, la vie, le mystère de la vie, cette chose du souffle qui vient et qui part et qui est le grand mystère. Ça, en effet, c'est une question à réfléchir.
C'est une question. Donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est une question totale parce que on ne sait rien sur la vie et la mort. Si on prend l'exemple du bébé, c'est un mystère total. Pourquoi un bébé continue de vivre et pourquoi un autre va mourir, ça on n'en sait rien. Et c'est vrai que j'ai été faire des enterrements pour des bébés qui sont morts de la mort du nourrisson, c'est très impressionnant, parce que quand on accompagne une personne qui a 90 ans, voilà, ça paraît normal, évident, etc. Mais quand on voit un petit bébé de 6 mois, on a envie d'appuyer, en tout cas de faire un massage, parce que c'est incompréhensible, qu'est-ce qui manque, il est tout rose, tout est là pour qu'il vive, et là, c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Ça, c'est un registre, effectivement, mais l'autre registre, c'est les pulsions de vie et les pulsions de mort. À mon avis, c'est un registre un peu différent. C'est-à-dire, nous portons en nous des pulsions de vie et des pulsions de mort, on est bien d'accord. Mais à se demander si les pulsions de mort que nous entretenons, ce n'est pas des pulsions de vie refoulées. C'est la question que je pose.
Je continue à poser.
Ce qui est autre chose que le mystère de la mort, qui est effectivement, dont je ne peux rien dire, et qui m'échappe ici complètement.
Mais par exemple, dans la question de l'autisme, quand on voit des enfants autistes, on est impressionné de cette question du mystère qu'ils représentent. Ils sont vivants et il y a quelque chose qui fait qu'ils ne sont pas dans la relation vivante, dans une relation et qui en donne l'impression. Moi, je me souviens que la première fois que j'en ai rencontré, j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas nés à cette vie. À cette vie relationnelle qui nous fait vivre, qui fait que nous sommes existants.
Oui, je crois moi aussi que dans l'autisme il y a un problème d'incarnation, c'est-à-dire il y a une difficulté à devenir là.
Oui.
Mais bon, là aussi.
Ça sort, de quelle histoire.
Voilà, exactement.
De quelle histoire.
Sur la même question, sur des morts. Je crois que la piste que vous avez ouverte là, avec la non-mise en mouvement de la vie qui crée la vie sur des morts, ça ouvre une piste extraordinaire aussi pour un autre niveau que le niveau individuel, personnel. C'est le niveau social. Parce que c'est quand même le corps de l'humanité qui est là sur la terre. Et ces pollutions des morts, on les voit chaque jour, de plus en plus, je dirais, dans les guerres, dans la dégradation de l'environnement, dans toutes ces histoires, c'est des pollutions des morts incroyables. Et ça donne une piste, je crois, de réflexion. Enfin, ça fait beaucoup de résonance à moi. Sur ce que serait une réforme sociale liée à ces mises en mouvement de la vie.
Oui, voilà.
Pas non mise en mouvement.
C'est-à-dire que, mise en mouvement de voilà, vie. Parce qu'il y a des gens qui sont en situation telle qu'ils ne peuvent pas exprimer la vie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les éléments. Moi, j'ai des exemples, par exemple, de jeunes de banlieue qui sont au chômage, qui n'ont pas pu faire des études, et qui sont dans des impossibilités. Et quand on ne permet pas à quelqu'un d'avoir un avenir, eh bien, il rentre dans une violence et une révolte. Ça, c'est clair. Et par contre, si on leur donne la possibilité d'avoir un avenir, ces mêmes qui étaient violents et qui étaient dangereux même sont capables d'être des citoyens tout à fait au service de la nation. Et il y a des exemples que je ne vais pas raconter maintenant, mais qui prouvent cela. Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas foncièrement des êtres méchants et violents. Il y a des êtres qui souffrent ou des êtres qui ne peuvent pas, qui ne sont pas en condition, on ne leur donne pas les moyens de pouvoir exprimer la vie. Alors, on peut s'interroger. C'est évidemment une piste, hein, je ne suis pas dans une affirmation, mais je trouve que c'est une piste intéressante à regarder. Et puis, du point de vue collectif, effectivement, c'est important aussi, parce que dans les mouvements sociaux, eh bien, il y a... On voit bien les mouvements sociaux, par exemple, de ces dernières années, sont relativement au fait des scandales financiers. Quand on voit les moyens que l'on a globalement dans la mondialisation et l'injustice frappante entre les décalages entre les salaires les plus hauts et les salaires les plus bas et les masses financières, quand on parle de milliers de milliards et puis d'autre part des gens qui vivent avec 500 euros par mois, évidemment ce décalage engendre de la violence. Donc, en fait, cette non-circulation...
Et au-delà de la violence, il y a la mort.
Et voilà, au-delà de la violence...
La mort de la planète.
Il y a la mort de la planète. Et c'est là où, en fait, j'ai dit au tout début de l'exposé que la dimension de métanoïa devenait actuelle pleinement du point de vue sociétal, parce que aujourd'hui, il est clair que nous avons une limite des ressources, c'est-à-dire que les stocks des ressources naturelles s'épuisent, que nous ne pourrons pas être tous sur un modèle européen ou américain, et que, en même temps, la planète est finie, c'est-à-dire il n'y a pas de planète B, et qu'il va falloir partager, mais partager, ça veut dire que ceux qui ont plus devront diminuer leur mode de vie pour que ceux qui n'ont pas suffisamment puissent avoir plus. Et la dimension du partage suppose une vraie métanoïa, c'est-à-dire que sur un registre de nos modes de vie actuels et sur un registre de notre mentalité actuelle, ça paraît impensable, mais s'il n'y a pas cela, ça sera un préjudice pour toute l'humanité, et c'est pas vrai que quelques-uns pourront se sauver au détriment des autres. Donc là, nous avons vraiment l'application aujourd'hui d'une manière concrète de ce que la métanoïa, ça veut dire qu'il faudra changer de niveau de conscience et changer, je dirais, bonifier du point de vue du partage, c'est-à-dire de la relation à l'autre, et finalement de faire entrer toute la sphère des gratuités, c'est-à-dire de ce qui ne se paye pas, et qui est quand même le plus essentiel. Parce que finalement, nous ne sommes pas enrichis de l'argent, nous sommes enrichis de la relation que nous avons les uns avec les autres, mais la relation est gratuite. Nous sommes enrichis de la lumière du soleil et de la chaleur du soleil, mais ça c'est gratuit. Nous sommes enrichis de l'air, mais ça c'est gratuit. Et finalement, ce qui est essentiel pour la vie est gratuit. Ce qui est superficiel, c'est l'argent pour acheter les vêtements, pour acheter le chauffage, pour le logement, pour la nourriture, etc. Et c'est là où, aujourd'hui, il se met en place plus ou moins des systèmes d'échange échange sur le solidarité, sur des critères de monnaie locale ou bien sur, sur le critère du temps, par exemple. Un échange de temps, une heure de ceci contre une heure de cela. Donc nous voyons que nous pouvons muter ici, et c'est aussi une véritable métanoïa, c'est-à-dire en fait un retour sur la dimension du respect de l'humain dans son intégrité, au lieu de vivre sur des registres de profit au détriment des êtres humains. Voilà, là, il y a une véritable conversion à vous.
La croissance.
Et voilà. Alors, au lieu d'avoir une croissance PIB, d'avoir une croissance spirituelle et une croissance dans l'ordre de l'être et de la qualité relationnelle. Donc, voilà. Voilà, peut-être on va s'arrêter là pour ce soir. Merci.
Merci.